Chapitre 25. Les incendies durèrent jusqu'à l'aube. Après, la fumée continua à s'élever dans un ciel déjà grisâtre. Des maisons et des bateaux, il ne restait souvent plus que des charpentes noircies. Par bonheur, un groupe de villageois avait réussi à sauver 6 petits navires, de quoi survivre grâce à la pêche. Partout, des gens constataient les dégâts à voix basse. Nietzsche se souvint de la joyeuse activité de la veille. Les conversations entre voisins, la petite place du marché et ses vendeurs enthousiastes, le banquet du soir, tout un mode de vie dévasté par un raid d'esclavagistes. Toujours en état de choc, Bannon était assis sur un banc fendu, à côté d'une table à vider les poissons renversés. Des écailles argentées restaient collées au plateau, vestiges de temps beaucoup plus heureux. Comme s'il voulait y puiser de la force, Bannon serrait à deux mains la poignée de Solide. Sur sa chemise déchirée s'étalaient des taches de sang et de suie. En approchant du jeune homme, Nietzsche remarqua 5 plaies au moins sur ses bras, son dos et ses épaules. Plongé dans ses pensées, l'ancien cultivateur de choux avait vieilli de 10 ans en une nuit. Épuisé par le combat et la guérison des villageois les plus grièvement blessés, Nietzsche trouva quand même la force de soigner Bannon, qui ne sembla pas s'en apercevoir. Dans un état épouvantable, Nathan rejoignit ses amis. Quand il leva les yeux sur lui, son disciple ne sembla pas le reconnaître.
« Cette nuit, fiston, tu t'es battu comme un incroyable guerrier, comme si on t'avait jeté un sort de fureur, mais je sais que ce n'était pas ça. »
Blanc comme un linge, Bannon souffla.
« Des esclavagistes attaquaient le village. Il a bien fallu que je me batte. » « Et tu t'en es tiré avec les honneurs, »
intervint Nietzsche.
« Mieux encore que contre les Selkas. C'était des esclavagistes !»
dit Bannon, comme si ça expliquait tout. Avec un effort, il réussit à se reprendre et se fendit même d'un sourire, abominablement faux, hélas.
« C'est ce qu'on attendait de moi. Je détestais l'idée que tant de gens soient blessés ou réduits en esclavage. La vie est agréable à Reine d'Assurbay, et je ne voulais pas que tout soit détruit. »
Nietzsche regarda Nathan, qui fronça les sourcils. Comme la magicienne, il ne croyait pas un mot de ses explications.
« Ta réponse est acceptable, » souffla Nietzsche. « Mais incomplète. Dis-moi la vérité. »
Bannon sursauta.
« Je ne peux pas, c'est un secret. »
Nietzsche sut qu'elle allait devoir être dure. Les vraies blessures de Bannon, invisibles, étaient bien plus graves que les autres et si elles ne cicatrisaient pas, elles finiraient par s'infecter. Ces derniers jours, l'opinion de la magicienne avait évolué. Le garçon insouciant et naïf n'était qu'une façade. Elle devait savoir. Saisissant les pans de sa chemise, elle força Bannon à se redresser et la regarder dans les yeux.
« Je ne veux pas connaître tes secrets pour m'amuser, Bannon Farmer. C'est une nécessité vitale. Nous voyageons ensemble et ma mission peut dépendre de tes actes. Es-tu indigne de confiance ? Menaces-tu la tâche que je dois accomplir au service du Seigneur Ral, ou n'es-tu qu'un guerrier téméraire ?»
Accablé, Bannon regarda Nietzsche et Nathan. Puis il tourna la tête vers la galère qui finissait de couler dans le port. Nietzsche se souvint de la réaction du jeune homme quand ils avaient découvert l'épave sur la plage.
« Tu as déjà vu ces galères. Les Norokai, tu les connais. C'est à cause de Yann, mon ami Yann. Les esclavagistes. »
Les yeux injectés de sang à cause de la fumée et des larmes, Bannon prit une grande inspiration. Derrière les faux souvenirs d'une enfance heureuse, il y avait tant d'horreur. La vérité nue faisait peur à voir. À contre-cœur, comme un homme obligé de confier ses plus chères possessions à un usurier, Bannon raconta son histoire.
Yann et moi, on était amis depuis l'enfance. On adorait courir sur la plage ou dans les hautes herbes. Une fois, nous avons fait le tour de Shiria. Ça nous a pris un jour entier. Voilà ce qu'était notre monde. Petit, on désherbait les champs et on aidait au moment de la moisson, ce qui nous laissait beaucoup de temps libre. Tout au bout de l'île, on avait notre lagon. Quand la mer se retirait, on pêchait dans les mares qu'elle laissait. La plupart du temps, on jouait. Les meilleurs amis du monde, 13 ans tous les deux cette année-là. La dernière.
Bannon durcit le ton.
Un matin, on s'est réveillé tôt pour profiter de la marée basse. En escaladant les différents obstacles, pour des gamins, trouver des prises est très facile, on a rejoint notre lagon, À la ceinture, on portait de gros sacs vides. Parce que la pêche aux crabes et aux coquillages promettait d'être miraculeuse. Mais on était surtout heureux d'être ensemble plutôt que dans nos maisons respectives, qui n'avaient rien de paisible. Je croyais que ton île natale était un petit paradis, intervint Nietzsche. Un monde parfait mais ennuyeux. Bannon leva son regard vide sur la jeune femme. Rien n'est parfait, magicienne. N'es-tu pas la mieux placée pour le savoir?
Bannon secoua la tête et regarda de nouveau la galère détruite.
Ce jour-là, Yann et moi étions concentrés sur les flaques où des crabes allaient et venaient parmi les anémones de mer et les petits poissons piégés par la marée basse. Du coup, nous n'avons pas vu le canot des esclavagistes qui approchait. Avant d'avoir compris ce qui se passait, nous nous sommes retrouvés encerclés par six norukai, des colosses au crâne rasé avec leur horrible bouche élargie et cousue, des chasseurs, et nous étions le gibier.
Bannon cligna des yeux comme s'il revenait au présent.
Parfois au village, nous organisions des battues avec des filets et en tapant sur des casseroles. Des expéditions visant à rattraper les chèvres et à les regrouper pour l'abattage d'hiver. Les norukai étaient là pour la même raison, avec Yann et moi dans le rôle des chèvres. En criant, nous nous sommes enfuis. Yann me précédait et j'ai réussi à atteindre le pied de la colline, puis à escalader le versant avant que les deux esclavagistes les plus rapides m'aient rattrapé. J'avais un peu d'avance, mais j'ai glissé et basculé en arrière. Les norukai m'ont coincé, un peu rudoyé, puis jeté sur la plage de galets. Le souffle coupé, je ne pouvais plus émettre un son. À mi-chemin du sommet, Yann m'appelait. Encore un effort et il aurait été sauvé. Oui, il aurait pu s'en tirer. Je me suis débattu, mais les norukai étaient trop forts. Pour me ligoter, ils m'ont tiré les bras en arrière et m'ont saisi les chevilles. Impossible de bouger ou de crier. Et même quand j'ai repris mon souffle, je croassais. Une proie sans défense. Alors que mes ravisseurs me liaient les poignets, j'ai entendu un cri. Yann avait fait demi-tour et il défiait les esclavagistes. Des norukai lui ont jeté un filet dessus, mais en ratant leur coup. Dans la mêlée, il a pris sa massue à un type, puis il a volé à mon secours. Quand il a frappé, j'ai entendu un bruit de crâne qui explose. Un des chiens qui tentait de me ligoter. L'autre a voulu ceinturer Yann, mais un coup de massue lui a fait éclater les lèvres. Yann m'a crié de filer. Sans réfléchir, je me suis relevé et j'ai couru vers la falaise. Tout en finissant de libérer mes poignets, j'ai battu tous mes records de vitesse. Malgré mes doigts en sang et mes ongles cassés, j'ai trouvé des prises et grimpé plus vite que le vent. Quand je me suis retourné, j'ai vu que les esclavagistes indemnes encerclaient mon ami. Dès qu'il a été immobilisé par un filet, le norukai aux lèvres éclatées l'a roué de coups. Coincé, Yann a crié à s'en casser les cordes vocales.
Bannon eut un sanglot étouffé.
Yann est revenu pour moi. Il a risqué sa vie pour que je puisse m'enfuir. Moi, quand je l'ai vu submergé par le nombre, je me suis pétrifié et je l'ai regardé recevoir une correction. Les norukai riaient de l'entendre crier, du sang coulait de son front et je n'ai rien fait. Pareil lorsque ses chiens lui ont lié les poignets et les chevilles. J'aurais dû être à sa place. Il m'a sauvé et je n'ai pas bougé le petit doigt pour lui.
Bannon lâcha solide qui tomba sur le sol avec un bruit métallique. Comme pour se cacher, il plaqua les mains sur ses yeux.
J'étais à mi-chemin du sommet quand les esclavagistes se sont relancés à ma poursuite. Paniqué, j'ai escaladé à la vitesse du vent. Quand j'ai regardé en arrière, une fois arrivé au sommet, j'ai vu que les norukai portaient Yann sur leur canot. Il résistait, mais s'était perdu d'avance. Sur son visage, malgré la distance, j'ai vu son désespoir. Certain de ne jamais revenir chez nous, il emportait l'image d'un ami qui n'avait rien fait pour le secourir. Un ami qui venait de l'abandonner. J'ai voulu crier que je viendrais un jour le sauver, mais pas un son n'est sorti de ma gorge. De toute façon, à bout de souffle ou non, ça aurait été un mensonge. Yann m'a regardé comme s'il ne parvenait pas à croire que je l'abandonnais. Avant que les norukai le jettent dans leur canot, j'ai vu de la haine briller dans ses yeux. Alors j'ai couru, laissant mon meilleur ami derrière moi. Qu'aurais-je pu faire? Il s'était sacrifié pour moi et j'ai pensé à sauver ma peau, en fuyant. Douce mère, la mer, il est revenu pour moi et je l'ai laissé tomber.
Bannon baissa les yeux sur sa chemise souillée de sang, puis sur ses bras couverts d'entailles. Touchant une plaie sur son cou, il sursauta, comme s'il ne se rappelait plus où il l'avait récoltée.
Ses larmes ruisselaient, mais elle ne parvenait pas à noyer ses affreux souvenirs. « Voilà pourquoi je me suis battue comme ça ce soir. Je hais les esclavagistes. Quand ils ont capturé Yann, je me suis comportée comme un poltron. Aujourd'hui, j'ai grandi et je possède une arme. »
Bannon ramassa solide, l'inspecta et parut satisfait de découvrir que le tranchant était toujours acéré.
« Je ne sauverai jamais Yann. Mais il est en mon pouvoir de massacrer tous les Norukai qui croisent mon chemin. »